Le journal Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Une liste de plus en plus longue, 83 départements désormais concernés par des restrictions d'eau dans le Tarn. L'idée d'un barrage refait surface 4 ans après le drame de Sivens. Du rouge, voire du noir sur les routes ce samedi et sur les autoroutes, des agents de sécurité souvent confrontés à des comportements pas respectueux, on le verra. L'opposition russe dans les rues de Moscou, manifestation pour des élections justes et manifestation autorisée par les autorités. On y revient à 8h20, Laetitia.
Oui, avec Françoise Dossé, spécialiste de la Russie, ce sera l'invité du grand entretien. Ces manifestations autorisées, c'est un nouveau test pour le pouvoir, un pouvoir d'ailleurs aux mains de Vladimir Poutine depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se joue en ce moment en Russie? On posera la question donc à Françoise Dossé à 8h20.
Un festival plus écolo dans ce journal. Le Sziget à Budapest multiplie les gestes pour la planète. Et puis le retour de la Ligue 1 de foot hier. Nette victoire de Lyon à Monaco 3-0. C'est au menu du journal des sports de Thomas Larabi.
France Inter.
Les fortes pluies de ces derniers jours dans certaines régions n'ont rien changé à la sécheresse. Selon le site Propluvia, des restrictions d'eau sont mises en place dans 83 départements et inquiétude des agriculteurs, notamment dans le Tarn, dans la vallée du Tescou, à tel point que l'on reparle d'un barrage. Souvenez-vous, il y a 4 ans, le projet de Sivens avait été abandonné après la mort de Rémi Fraisse lors d'une manifestation sur la ZAD. Eh bien, les tensions entre les pros et les anti-barrages sont ravivées. Reportage Émeline Ferry.
Chaque été, c'est la même chose, constate Jean-Louis Marty, maraîcher bio, au milieu de son champ de pommes de terre.
Voilà. Vous voyez les crevasses, hein ? Regardez, c'est exceptionnel, vous avez à peu près des patates non pourvues d'eau qui sont de la grosseur à peu près d'une cacahuète, quoi.
Le Tescou est asséché, il faut trouver une solution. Élus, agriculteurs et écologistes se retrouvent régulièrement pour discuter. Marilyn Lerme, maire de l'Isle-sur-Tarn, est la coprésidente de ce projet de territoire.
Il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on ramène de l'eau dans la vallée pour le milieu, pour le développement agroécologique. Et on se doit de répondre donc au désarroi des agriculteurs de cette vallée qui aujourd'hui n'ont plus d'eau.
Plusieurs consensus ont été trouvés, reste un point qui bloque. Comment amener de l'eau dans la vallée? L'idée d'une version réduite du barrage de Sivens s'est étudiée. Une aberration pour les associations de défense de l'environnement. Alors Christian Pince, opposant de longue date, a proposé une alternative lors de la dernière réunion.
On prolonge un réseau d'irrigation existant qui pompe de l'eau dans le Tarn et qui serait prolongé le long du Tescou. Il faut accompagner par des mesures d'économie d'eau et de changement de pratiques agricoles.
Tous attendent donc le résultat du vote en septembre, avec la crainte d'une nouvelle ZAD.
Émeline Ferry.
On en parlait tout à l'heure. Encore un samedi difficile sur les routes.
Hein. Oui, on fait le point très régulièrement sur France Inter. Journée noire dans le sens des départs vers le sud-est, rouge pour les retours. Et des comportements pas toujours exemplaires sur la route. Il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui s'en rendent compte, mais également les agents de sécurité d'autoroute. Témoignage anonyme recueilli par Augustin Bordet de France Bleu Pays de Savoie.
J'étais appelé pour des objets sur les voies. J'arrive et en effet, il y avait un lave-vaisselle, un micro-ondes et le monsieur avait posé tout ça dans la remorque. Sans les attacher, tout a fini au milieu des voies, ainsi que la cuisine toute neuve.
Je vais intervenir sur l'accident et un chauffeur de bus m'a collé contre la glissière et m'a empêché en fait d'avancer alors que je roulais en bande d'arrêt d'urgence.
Il y a des gens des fois qui se permettent même de regarder des films en roulant ou encore même manger. Des fois ça s'avère compliqué suivant ce qu'on mange.
Des personnes qui tombent en panne, qui sont mal garées et qui eux sortent de leur véhicule mais laissent leurs enfants dans le véhicule.
La personne en fait a arrêté la circulation sur l'autoroute pour que sa fille puisse être prise en stop et qu'elle puisse aller prendre son avion à l'heure.
Comportement évidemment à ne pas reproduire, la route et les rails du monde également dans les gares aujourd'hui. Et cette question, les trains de nuit pourraient-ils revenir en force? C'est le cas déjà en Allemagne. En France, l'idée commence à faire son chemin alors que la concurrence, elle, va débarquer, Maxime Debs.
À vous, la SNCF.
L'avantage avec les trains de nuit, c'est que vous voyagez la nuit. Et quand vous voyagez la nuit, ça vous fait du temps de vacances en plus. C'est toujours ça de prix.
Les années ont passé et l'amour de la SNCF pour ses trains nocturnes s'est délité. Si elle opère toujours deux lignes, Paris-Toulouse et Paris-Briançon, elle observe désormais de loin l'intérêt que leur portent les acteurs privés qui arriveront demain, comme Flixtrain qui se verrait bien relancer la ligne Paris-Nice, délaissée il y a 2 ans par la SNCF. Une bonne nouvelle pour l'eurodéputé écologiste Karima Deli, en charge des transports au Parlement européen.
On le voit en Allemagne, le train de nuit revient de loin. Il a été donné mort en 2016. Il renaît grâce à la compagnie OBB qui compte aujourd'hui 1,4 million de passagers par an rien que sur le train de nuit.
Exemple outre-Rhin, le Berlin-Zurich opéré par le privé relie les deux villes en 12 heures à partir de 29 euros. Séduisant lorsqu'on sait qu'en face, la Deutsche Bahn propose le même trajet plus cher en ICE, l'équivalent du TGV pour un gain de temps d'à peine 3 heures. Alors pourquoi pas la même chose chez nous?
On a diminué le nombre de trains de nuit. Et c'est ça le drame. Plus on réduira le train de nuit, et oui, l'offre ne sera pas à la hauteur de la demande.
Alors sur ces trains de nuit, la SNCF reverra-t-elle demain sa stratégie? Pour un expert du secteur, l'agressivité des opérateurs privés pourrait bien l'y obliger.
Et si c'était le retour des trains de nuit, dossier à retrouver sur notre site internet franceinter.fr.
À l'étranger, à Hong Kong, la mobilisation ne faiblit pas.
Non, bien au contraire, 10e week-end de manifestation des pro-démocratie aujourd'hui, mais également demain, le gouvernement pro-Pékin exclut toute concession. À Moscou également, la mobilisation se poursuit pour réclamer des élections locales justes. L'opposition dénonce l'exclusion de ses candidats, mais le rassemblement d'aujourd'hui est particulier. Jean-Didier Revoin, il est autorisé par les autorités, autorisation stratégique.
Cette semaine, la commission électorale a invalidé la participation des candidats de l'opposition aux élections du Parlement de Moscou, mais cela n'a pas découragé les opposants, plus décidés que jamais, à réclamer des élections justes. Après plusieurs samedis de rassemblements interdits, qui se sont soldés par plus de 2000 arrestations, cette semaine, la ville de Moscou a autorisé un rassemblement pouvant compter jusqu'à 100 000 personnes. Un véritable test pour l'opposition, qui espère que les moscovites se déplaceront en nombre, même s'il est peu probable que la commission électorale revienne sur sa décision. Sur les réseaux sociaux, des rappeurs, des youtubeurs et d'autres personnalités du monde du spectacle et des médias comptant des millions de followers ont annoncé qu'ils participeront à la manifestation qui se déroulera sur l'avenue Sakharov. Mais pour quels enjeux? La municipalité de Moscou tentera de montrer au pouvoir qu'elle gère la contestation de manière efficace et les manifestants essaieront de faire prendre conscience au pouvoir de la nécessité d'engager des réformes concrètes pour éviter à la société russe de vivre une longue phase de stagnation économique. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
En France, conséquence des orages d'hier, jusqu'à 30 000 foyers privés d'électricité, des rues transformées en torrents à Toulouse et plus de 200 interventions de pompiers en Moselle.
Le climat qui fait l'objet en ce moment d'un autre, une autre forme de sommet. Ouais.
Oui, c'est à Kingersheim dans le Haut-Rhin près de Mulhouse. Pas des dirigeants, mais près de 700 militants associatifs venus apprendre à être des désobéisseurs pour le climat. En clair, ils sont formés à des actions dans les manifestations. C'est là qu'Iré les a rencontrés.
Comment bloquer une grande entreprise, comment réagir face aux forces de l'ordre, comment mobiliser les politiques ou prévenir les journalistes. Toute la semaine, ces militants ont été formés à des actions de désobéissance civile, sans violence. Et aujourd'hui, certains vont jouer le rôle d'un bloqueur, d'autres seront journalistes ou policiers lors d'un faux sommet international sur le climat. Emmanuel est militant en région parisienne.
Je suis dans cette démarche de transition écologique depuis plusieurs années à travers plusieurs associations. C'est très insuffisant, ces petits éco-gestes du quotidien sont indispensables, mais c'est pas ça qui va permettre de changer les choses sur le long terme.
Et pour les organisateurs comme Malika Perrault, des Amis de la Terre, ce camp climat est bien sûr l'occasion de recruter des militants et de préparer les futures actions de désobéissance civile, comme en marge du prochain G7 à Biarritz à la fin du mois.
Ce camp climat, il a permis aux gens de se former, il leur permet aussi de se préparer aux mobilisations de la rentrée sur la justice climatique, sur la justice sociale, et notamment de se préparer à se mobiliser pour le G7. Où nous allons être présents pour dénoncer le double discours d'Emmanuel Macron en matière de climat.
Ces militants reprochent au gouvernement de ne pas tenir ses engagements sur le climat. Les ONG promettent d'apporter à Biarritz des portraits d'Emmanuel Macron décrochés dans les mairies. D'autres actions sont prévues en septembre.
Et des actions pour le climat et la planète, il y en a aussi parfois dans les festivals de musique l'été. Il faut dire qu'un festivalier, ça pollue. Alors à Budapest, les organisateurs du SIGET ont pris des mesures. Florence Labruyère.
Le SIGET se met au vert. Pour réduire son empreinte carbone, le festival s'attaque à la première source de pollution, les tentes abandonnées sur place par les festivaliers. Désormais, elles ne sont plus jetées, mais données à des associations. Autre innovation, un camping écolo avec des douches qui fonctionnent à l'énergie solaire et des tentes en carton. Venu de Lyon, Quentin a tenté l'expérience.
Ça reste assez frais le matin, contrairement aux tentes en toile où on surchauffe vite. Sinon, il n'y a pas de fenêtre. Et du coup, il n'y a pas de petites moustiquaires comme dans les tentes. Donc, on est vite envahi de fourmis et de petites bêtes la nuit. C'est très éco-camping, on est en communion avec la nature.
Au Siguette, on ne sert plus à boire dans des gobelets jetables, mais dans des verres réutilisables, accouche Dominus, l'un des responsables du festival.
On cible un public jeune et les jeunes attendent d'un festival qu'ils soient éco-responsables.
Anne-Françoise vient de Belgique et elle s'avoue séduite par ce virage écologique.
Ils ont beaucoup d'initiatives déjà au niveau des stands de nourriture où ils ont très peu de choses en plastique, c'est soit en bois, soit en carton. Et même au niveau des pailles, c'est des pailles en carton. Il y a quand même pas mal de choses mises en place ici.
Objectif du Siguette, recycler plus de 50% des déchets produits pendant le festival. Budapest, Florence Labrouillère, France Inter.
Et le Siguette jusqu'à mercredi sur Nil au milieu du Danube, Laetitia.
Merci Estelle Schmitt.